Marc chapitre 5, et c'est une série de messages sur les trois miracles de Marc 5. Il y a les miracles, et puis il y a le message des miracles. Et donc nous allons essayer de voir tout cela. Alors la semaine dernière, nous avons vu la femme avec la perte de sang, et comment le Seigneur déjà s'est intéressé à elle, il s'est arrêté pour elle alors qu'il était en urgence, disons qu'il était déjà en train de se presser d'aller en tous les cas vers une fillette qui était très malade, et il s'est arrêté pour s'occuper de cette femme. Et aujourd'hui, bien, nous allons justement voir cette résurrection de la petite fillette, la fille de Jaïrus. Donc, Marc chapitre 5. En fait, en préparant, je me suis rendu compte que j'avais trop à dire, et donc on va en laisser un petit peu pour dimanche prochain aussi. Parce que plutôt que d'en enlever, on va étendre. Donc, le passage se trouve dans Marc chapitre 5, et déjà commencer à lire au verset 21. Jusqu'au verset 24, et puis ensuite du verset 35 jusqu'à la fin du chapitre. Donc, Marc chapitre 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Ensuite, on saute la partie de la femme prise avec une perte de sang, et on reprend au verset 35. Il dit, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et c'est là le titre de notre étude ce matin. « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha, Koumi, » ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Et aussitôt, la fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Alors, bien sûr, le miracle attire notre attention, et bien sûr, c'est la jeune fille, cette petite fille de 12 ans qui jouit en fait de plusieurs miracles. C'est pas seulement un miracle, parce que il a suffi que du geste de Jésus, il prend la main de la fille et puis il dit une parole, jeune fille, lève-toi. Et qui se passe, c'est qu'elle reprend vie, mais pas seulement qu'elle reprend vie, mais en plus elle est guérie. Et pas seulement cela, mais c'est qu'elle est complètement rétablie. Parce qu'elle pouvait être épuisée de cette forte fièvre, et nous ne sachons pas combien de temps. Et elle est tellement rétablie qu'elle a de l'appétit déjà. Et puis elle se lève, vous savez, tout ça en un instant. Hein, les médecins, même de nos jours, 2000 ans après, avec tout ce qu'on a pu faire, eh bien, on n'arrive pas à rétablir quelqu'un comme ça. Hein. Même l'antibiotique, on lui dit quand même 2-3 jours. Hein. Ça, c'est même pour l'enfant. Et pour un adulte, alors là, c'est, il est encore plus long. Mais c'est... Et puis... Donc il y a plusieurs miracles et tout, et c'est ça qui est extraordinaire, et je le dis en passant comme ça, mais c'est que ce qui est extraordinaire avec les miracles de Jésus, c'est qu'aujourd'hui, il serait encore des miracles, avec tout ce qu'on sait de la science, mais encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire. Et c'est important de retenir cela. Ce n'est pas parce que les gens étaient ignorants, ils n'avaient pas les connaissances qu'on avait, qu'ils trouvaient ça un miracle. Mais c'est que même aujourd'hui, ça serait un miracle. Et donc, cette jeune fille, ben, à la fin de l'histoire, ben, c'est, oui, c'est, ça y est, c'est une petite fille, 12 ans, qui commence à courir, et papa, elle est peut-être dans les bras de papa, alors, j'en sais rien, en train de manger, la faim, et tout est bien. Et puis voilà, vous pouvez imaginer, vous avez déjà vu des petites filles de 12 ans, hein, plein de vie, voilà. Mais en fait... on a l'impression que l'attention est plus sur Jaïrus que sur la petite fille. Elle, c'est juste le détail. Mais en fait, on a l'impression que le passage s'intéresse plus au père. Et c'est un peu ce que nous allons faire. C'est pas, on ne veut rien enlever au miracle, mais en fait, Jésus-Christ, les miracles n'étaient pas une fin en soi. Et c'était toujours un message à communiquer, et quelque chose à accomplir. Et donc, nous allons revoir un peu le Père. Hein. Et premièrement, la prière du Père, la prière de Jaïrus. Premièrement, c'est le fait même qu'ils viennent à Jésus, c'est extraordinaire, parce que la grande majorité de ceux qui venaient à Jésus venaient pour trouver le soulagement de leur corps. Hein, ils étaient malades, ils étaient ceci ou cela. Ils venaient, et puis le plus souvent, c'était les gens du peuple qui venaient, parce qu'ils se posaient moins de questions peut-être, mais aussi parce que eux, tout ce qu'ils cherchaient, c'est le soulagement, et ce n'était pas forcément le message de Jésus qui les intéressait, c'était le soulagement. Ils avaient un souci, et ils voulaient être soulagés. Et... les chefs, là, Jaïrus était un des chefs de la synagogue, et lorsque vous lisez les évangiles, vous trouvez toujours les religieux, les scribes, les pharisiens, tout ça. S'ils étaient présents, c'était soit pour l'épier, pour voir s'ils n'enfreignaient pas la loi concernant le sabbat, hein, ils faisaient un miracle le jour du sabbat, ou bien ils étaient là pour lui tendre un piège théologique et le coincer. Mais en général, ils n'étaient pas là pour recevoir de lui. Mais ici, eh bien, non seulement est-ce que là, Jaïrus arrive, il vient à Jésus pour recevoir, et en plus, il le fait devant tout le monde. Nicodème, il était venu un peu de nuit pour poser ses questions. Mais Jaïrus, il est là devant tout le monde. Et... on pourrait se poser la question, on dit, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce qui le pousse à faire cela? Et de plaider comme ça, se jeter à terre devant Jésus, et puis de plaider, et je ne saurais reproduire de sa prière comme lui l'a prononcée, parce que je n'ai jamais eu de petite fille en danger de mort. Et donc, je ne saurais pas le dire, mais vous pouvez imaginer ce cri qui vient du cœur d'un père. Mais là, qu'est-ce qu'on a? Ben, Jésus vient d'arriver, la nouvelle a circulé rapidement, et la prière, c'est « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit guérie, qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Cet homme, il y a encore des choses à dire, parce que il avait une image, hein, de quelqu'un de religieux comme ça, un chef de la synagogue à l'époque. Hein, ils avaient un comportement, ils avaient et tout ça, et il a une image devant tout le monde. Et là, et ben, il se comporte comme une personne banale. Et imaginez, on se trouve dans cette situation où il a sa fille qui est malade et il a son image. Et il a un choix difficile à faire. Il a un choix difficile. Et il va faire le choix de sacrifier son image, de sacrifier ce que les gens pourraient penser de lui, et il va se jeter dans la poussière et plaider avec Jésus. Dites, mais qu'est-ce qui aurait pu faire cela? Eh bien, je pense que ce ne sera pas trop difficile à vous convaincre que c'est peut-être l'amour pour la petite fille. L'amour, c'est puissant. Vous savez, il s'est trouvé dans une situation où l'orgueil et l'amour étaient en conflit. Vous savez, la différence entre l'orgueil et l'amour, c'est pas très grand. La différence n'est pas très grande. Bon, comment on la ressent, c'est très grand. Mais l'amour, c'est l'amour de moi plus que l'autre. Et l'amour, c'est aimer l'autre plus que moi. C'est la seule différence. Et là, c'était en conflit. Et le père a dit, non, j'aime ma fille plus que je n'aime mon image. Et c'était un choix difficile. Vous savez, c'est... Comme ça, peut-être qu'on s'est trouvé dans des situations où il fallait se comporter de cette manière, il fallait faire ce choix. Et puis j'espère que c'est un choix pour une vie comme ça, où on est vraiment marqué par l'amour. Mais le premier qui l'a démontré, c'est justement Jésus-Christ, il nous dit dans Philippiens, il n'a pas essayé de garder à tout prix son image, sa gloire, mais il était prêt de la mettre de côté par amour pour nous, pour devenir un homme, pour devenir le moindre des hommes, pour mourir sur la croix comme un malfaiteur, pour nous dire combien il nous aimait. C'est l'amour, c'est extraordinaire, ce à quoi ça peut nous pousser. Et ce n'est plus une question de ce que les gens vont penser de moi, c'est une question de j'aime. Et cet homme arrive là. Il y a déjà un travail qui se fait dans son cœur. Et en général, c'est une des premières luttes. Quand on vient au Seigneur, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont même du mal à mettre les pieds dans un local comme celui-ci. Parce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire. Il y a une image à préserver. C'est une première lutte. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce qui importe, c'est mon image et puis perdre ma fille, ou perdre autre chose, ou bien c'est je réponds à l'amour de Dieu. Luc 8 nous dit que la fille était sa fille unique. Et Jésus, quand il a vu le comportement de Jaïrus, eh bien, il a répondu. Il a approuvé. Et il nous dit, il alla avec lui. C'est pas qu'il n'y avait pas de monde, il y avait plein de monde et plein de malades et tout cela. Mais Jésus, voyant cet homme, voyant son comportement, voyant ce qui déjà se faisait dans son cœur, eh bien Jésus commence avec lui. Vous savez, dès que on arrive vers Dieu avec un cœur brisé, comme on dit, humilié, on est prêt à donner plus d'importance à lui qu'à nous-mêmes, eh bien, il s'intéresse à nous. Il intervient. Et une œuvre commence. C'est les premières étapes. C'est ce comportement qui nous amène à la repentance. On est prêt à arrêter une direction et puis reprendre une nouvelle direction avec le Seigneur. Mais ce qui est bizarre, c'est que la prière de Jaïrus, c'était quand même, on sentait l'urgence. Il dit, ma fille est à l'extrême, elle est sur le point de mourir, viens vite. Et puis Jésus, ben c'est pas seulement que c'est pimpon, pimpon et on y va, mais c'est qu'il y a une dame qui le touche, et ben il s'arrête, il s'occupe d'elle, et puis il écoute qu'elle raconte tout, elle raconte tout ce qui lui était arrivé. Vous savez, raconter tout ce qui était arrivé, vous connaissez des gens, il y a des gens que quand ils racontent tout, c'est en 2 minutes, et il y en a qui racontent tout, ça prend 1 heure. Je ne sais pas combien de temps elle a pris, mais là, Jésus, il y a urgence. Il y a la fille qui est sur le point de mourir. Et Jésus, bon, il s'occupe en chemin, il continue. Et alors, et dans un sens presque, il laisse mourir la petite fille. Ça qui est extraordinaire. C'était un peu le sentiment, et le Père, il lutte avec ça. Et on en parlera plus peut-être la semaine prochaine de cette lutte dans son cœur, mais quand même, Jésus, écoute, tu sais, mettez-vous à sa place, hein. Moi, mon fils vient de m'appeler hier soir, et puis son petit garçon là qui a été encombré au milieu de la nuit, il peut à peine respirer, et il le prend, il part en urgence. Il faut faire vite parce que le risque est là. Et là, Jésus, tranquillement, ne panique pas. Mais vous savez, mais Jésus, il va, il s'intéresse, il continue le chemin, même s'il ne va pas à la vitesse qu'on voudrait. Vous savez, ça nous arrive souvent, hein, en tant que chrétien, que le Seigneur ne va pas aussi vite qu'on voudrait. Hein. Et parfois on est dans la panique, et puis on tourne en rond comme ça. Mais Jésus, bon, avec tous mes respects, mais quand même, hein. Et puis on le dit dans la prière, on a le droit de le dire, hein. Il comprend, Jésus, il savait exactement ce qui se passait dans la pensée de cet homme, hein. Donc il ne sait pas, il ne le reproche à rien du tout. Jésus va, il va intervenir pour sauver une petite fille. Vous savez, même de nos jours, et parfois les petites filles, ça, elles valent pas grand chose. On abuse d'elles, on les méprise, on les sacrifie, il y a toutes sortes de choses, même de notre jour, et même en Occident, hein, c'est pas toujours là-bas chez les autres, c'est même chez nous. Et Jésus, et même les disciples, avec ses disciples, il a eu un problème, et il a dû dire à ses disciples, mais laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Et elles sont précieuses. Même les petites filles, les petits garçons, tous ceux que la société peut considérer comme faibles et desquels on peut utiliser pour Jésus, ils sont précieux. Christ est mort pour chacun. Et donc, si nous voulons avoir la pensée de Christ, eh bien, il est indispensable que dans notre pensée, chacun est important. Peu importe dans quel état il se trouve. Il est important. On revient à Jaïrus. Il est là, hein, on l'a laissé dans sa panique. Vous imaginez, et certainement que ça se voyait sur sa tête. Par amour pour sa fille, il va voir Jésus. Il se jette à terre. Il plaide. Il dit, Jésus, écoute, laisse tomber tous les autres et viens chez moi. Et on a déjà fait des prières comme ça, n'est-ce pas? Et puis là, Jésus, il va perdre le temps. Il va laisser mourir la petite. Et le Père, il pourrait penser, il pourrait dire, mais je me suis mis dans la honte et tout, et puis pour rien du tout. Et c'est toi qui l'auras gâché. Imagine, hein, les pensées, hein, on en a les pensées, les êtres humains. Hein, bon, heureusement qu'on ne dit pas à tout le monde tout ce qu'on pense. Mais c'est là. Hein, et lui, c'est en tous les cas. Qu'est-ce qui provoque cette panique chez le Père? Eh bien, le problème, c'est parce que dans sa tête, il y a une information qui est fausse. C'est que pour lui, si elle meurt, c'est terminé. Et donc, le temps presse. Tandis que pour Jésus, c'est pas ça qui m'arrête. Hein. La mort n'est pas un frein pour moi, n'est pas un obstacle. Les choses. Et c'est pour ça qu'on a parfois l'impression que Dieu, il prend son temps. Et puis nous, mais c'est que les événements, les calendriers, tout ça, ça ne le dérange pas. Mais nous, un peu. Bon, il ne comprend que ça soit vrai chez nous. Mais bon, comprenons aussi que chez lui, ce n'est pas vrai. Et on a besoin de nous en souvenir. C'est un peu le sentiment, vous vous rappelez, de Marthe et Marie. Hein, quand leur frère est mort, ils ont envoyé quelqu'un rapidement dire à Jésus, écoute, viens, Lazare, celui que tu aimes, ton ami, il est malade, il est mourant, viens vite. Et puis, vous vous souvenez de l'histoire dans Jean chapitre 11, eh bien Jésus, il reste là encore 3 jours, puis ensuite il fait le trajet, qui prend 1 jour, et d'où les 4 jours. Et puis la première chose que les 2 sœurs disent, Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Comme pour dire, eh ben écoute, tu as traîné, eh ben c'est terminé. Et c'est vrai que c'est difficile pour l'être humain d'imaginer une résurrection. C'est vraiment, la résurrection, c'est un problème. Et c'est difficile à croire pour un être humain. Et même Jésus, hein, il a rencontré des 3 résurrections qu'il a eues. Dans tous les 3 cas, personne n'a cru à la résurrection. Hein. Que ce soit pour la fille de Jaïrus, que ce soit pour Lazare, que ce soit pour... quand il a rencontré un enterrement, hein, puis il a guéri. Ou que ce soit pour sa propre résurrection. Personne n'a cru. Même pas ses disciples. Hein. Ses disciples, même, ils ont... Jésus leur a dit, je mourrai et puis je vais ressusciter. C'est pas possible. Et puis après que c'était arrivé, les femmes se sont dit, on l'a vu. Ils ont dit, bon, non, mais parole de femme. Et après, il y a eu les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils arrivent, ils disent, mais on l'a vu. Ils disent, oh, non, encore vous. Vous êtes fatigué un peu aujourd'hui. Hein, le week-end a été difficile. Mais c'est vrai que c'est pour l'être humain, avec sa petite tête et les quelques kilos entre ses 2 oreilles, là, il a du mal avec la résurrection. Mais après Pentecôte, c'est extraordinaire, et je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais après Pentecôte, une fois que les disciples, c'est rentré dans leur tête que Jésus était guéri, ressuscité, eh bien là, eh bien, ils étaient prêts à accuser les pharisiens et les scribes, le Sanhédrin, à leur dire, mais c'est vous qui l'avez crucifié et Dieu l'a ressuscité. Et puis ils sont prêts à mourir pour la cause et tout ça, ils se sont convaincus au point que la religion, le judaïsme qu'ils avaient pratiqué jusque-là, ils arrêtent tout et ils vivent sur un autre principe. C'est un Nouveau Testament. Il y a un changement total. C'est jamais arrivé dans l'histoire du peuple juif, que autant de personnes quittent le judaïsme pour se tourner vers autre chose. Et se sont tournées vers Jésus-Christ. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils étaient, il y a un moment où ils ont saisi que Christ est mort et il est ressuscité. Et c'est sa résurrection. C'est pour ça qu'il nous dit que c'est le grand miracle. Et Jésus a dit, vous voulez un miracle ? Eh bien, vous aurez un miracle. C'est le miracle de la résurrection. C'est celui qui convaincra tout le monde. Mais c'est celui qui a plus de mal à passer. Je vais m'arrêter quelques moments avec cette histoire de résurrection, mais parce que, bien sûr, on a tous lutté avec cela. Un miracle, c'est un problème pour l'intellect. C'est un obstacle pour celui qui est limité par la raison. Et c'est surtout difficile pour celui qui ne voit pas un Dieu qui soit puissant et qui ait une volonté pour intervenir. Là, s'il n'y a pas Dieu dans l'histoire, et même j'ai regardé dans le dictionnaire la définition d'un miracle, eh bien justement c'est un phénomène qui ne s'explique que par une intervention divine. Donc s'il n'y a pas Dieu, donc il ne peut pas y avoir de miracle. Et donc voilà. Et on s'arrête là. J'entrevois qu'il y ait un Dieu puissant avec une volonté qui peut intervenir, alors là tout d'un coup les miracles sont possibles. Le gros problème, le mot miracle, déjà dans le français on l'utilise, on peut dire par exemple c'est, on peut dire, c'est un miracle qu'on se soit croisé. Hein, on n'a pas le mot comme ça pour dire c'est un miracle qu'on se soit. Mais là, on fait référence uniquement aux probabilités. Les probabilités étaient tellement qu'il y avait peu de chances qu'on se croise. Hein, donc on dit que c'est un miracle. Ou bien on peut dire que c'est un miracle qu'ils soient encore vivants. Il y a un accident, on voit l'état de la voiture et puis la personne sort et puis elle marche. Tu vois, c'est un miracle. Mais là encore, si on est en train de penser pas à l'intervention de Dieu, on est en train de penser il a de la chance. Hein. C'est fou combien ce qu'on peut attribuer au hasard et à la chance et qu'on ne veut pas attribuer à Dieu. Mais c'est le gros problème. Le gros problème pour l'intellectuel, c'est qu'il a cette notion qu'il y a des lois dans la nature et les lois sont souveraines. Et il y a personne qui peut interrompre ces lois. Elles sont là. Personne ne peut y toucher, peut les affecter, peut les interrompre. Et donc, il est impossible d'avoir un phénomène qui soit contre nature. Mais laissez-moi vous donner une illustration qui pour un peu nous aider à comprendre un peu comment ça se passe. Supposons que j'ai un jardin, et puis de ce côté, j'ai un pommier rempli de fruits, et puis de ce côté du jardin, j'ai un citronnier rempli de fruits, de citron. Et voilà. Et puis, après, il y a un vent très fort qui passe, Et votre raison vous dit, normalement, au pied du pommier, on va trouver plein de pommes, et au pied du citronnier, on va trouver plein de citrons. Et supposons que vous arrivez là, et tout d'un coup, chose extraordinaire, c'est que sous le citronnier, vous trouvez une pomme. Comment expliquer ça ? Parce qu'on connaît la loi de la pesanteur, hein, les pommes sont secouées, elles tombent, voilà, jamais loin du pommier. Et là, c'est wow. Est-ce que le citron, en tombant, s'est transformé en pomme ? Et voilà, c'est un gros problème là. Hein. Mais comment ? Il y a une pomme sous le pommier. Eh bien, celui qui dit « mais il n'y avait personne dans ce jardin », lui, il ne sait pas comment expliquer ça. Mais celui qui veut bien croire qu'il y avait quelqu'un dans le jardin, qui, quand les pommes sont tombées, il a mis sa main, il a attrapé ça, puis il l'a jeté sous le citronnier, ben là, il n'y a aucun problème, tout s'explique. Hein, ce qui est naturel est arrivé. Et ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est est-ce que je reconnais qu'il y avait une personne avec une volonté qui pouvait essayer d'attraper la pomme et la déplacer ? À partir du moment qu'il y a quelqu'un dans le jardin qui peut ramasser les pommes et les citrons, après, toutes les possibilités sont là. Que tous les citrons soient sous le pommier, que toutes les pommes soient sous le citronnier, que en fait, il n'y ait ni pommes ni citrons sous les pommiers, mais elles sont tous dans le cellier. Tout est possible à partir du moment qu'il y a quelqu'un. Mais quand tu te dis qu'il n'y a personne dans le jardin, après là, tu as des problèmes. Comment est-ce que ça s'est passé ? Et c'est un peu le croyant quand il est dans la vie, il voit des choses, mais pour lui c'est pas impossible. C'est pas qu'il éteint son cerveau et puis il essaye de croire à l'impossible. Non, pour lui il y a une personne avec une volonté qui circule et qui peut faire des choses. Les lois de la pesanteur dans ce récit, les lois de la pesanteur, elles n'ont jamais été annulées. Les lois de la nature, elles ont continué. C'est seulement qu'il y a une volonté qui est là, qui attrape la pomme, et puis qui le met ailleurs, et puis voilà, c'est tout. Donc, c'est un peu... Et ce qui s'est passé ici avec Jairus, c'est seulement, il y a une volonté, celui qui donne la vie est venu, et qui a rendu la vie. Et pas plus compliqué que ça. Et Jésus vient, et il parle à cette fille, il lui rend la vie, parce qu'il a dit, lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est la vie, il donne la vie, Dieu donne la vie, Dieu a insufflé la vie dans l'être humain. Et puis, il peut le rendre, ce n'est pas un problème pour lui. La résurrection n'est pas plus compliquée qu'autre chose. Et Mais la question, c'est, mon problème, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un dans le jardin ou pas? Hein, c'est là où tout s'explique ou ne s'explique pas. Et aussi, pour ma vie, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma vie qui peut intervenir, qui a accès à ce que je suis, et qui peut prendre une personne violente et la transformer en personne douce? L'apôtre Paul, il disait, j'étais violent. Et après, il parle à l'église, il dit, j'étais telle une nourrice avec vous. Comment? Ça, c'est un miracle. Hein, c'est une transformation. Mais c'est parce que quelqu'un est intervenu. Hein, et tout à l'heure, on disait à cet homme, il disait, va dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment est-ce que tu es de ton état? Et puis je ne vous décris pas l'état dans lequel il se trouvait, mais c'est le pire des états. Et Jésus intervient, et puis c'est un homme, dans son bon sens, habillé, assis au pied du Seigneur. Miracle? Non. Pas si on veut reconnaître qui Jésus est. Et donc le problème, c'est pas est-ce que c'est possible ou c'est pas possible, c'est une question est-ce que le Seigneur est là ou pas? Est-ce qu'il peut intervenir? Et donc, le problème chez Jaïrus et dans toute sa maison, hein, puisque c'est les gens de la maison qui viennent lui dire « Jaïrus, elle est morte, alors c'est pas la peine d'importuner, c'est terminé, c'est trop tard. » Et le Seigneur savait que Jaïrus, c'était, peut-être il l'a vu sur son visage, hein, c'était l'effondrement. Et Jésus, qui est conscient, alors qu'il y a du monde autour de lui, autant il a senti que la femme l'avait touché, comme on a dit dimanche dernier, et il s'est occupé d'elle, autant il a su ce qui est passé par la tête de ce papa, et rapidement il lui dit, sans tenir compte de ses paroles, des paroles qu'on venait de lui transmettre, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, c'est-à-dire les idées que tu as, t'occupe pas. C'est les problèmes que tu imagines, c'est pas des problèmes. Toute cette situation dans laquelle tu es, c'est pas. Je sais, j'ai le contrôle de la situation, je sais ce que je vais faire. C'est un peu ce qu'il disait à Marthe aussi, hein, rappelez avec les autres, Marthe, Jésus dit, bon, où est-ce qu'il vous l'avez mis? Ben, on l'a mis dans la tombe, là, il dit, ben, quoi, ouvrez. Il dit, mais ça fait 4 jours, hein, c'est, on peut pas... Jésus dit, Marthe, écoute, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il dit, si avec la foi, tout d'un coup, il y a un univers nouveau qui s'ouvre. Il y a plein de possibilités, plein d'options. On dirait que par la foi en Dieu, tout d'un coup, il y a une infinitude d'options qui se présentent. Parce que là, il y a plein de choses qui étaient impossibles avant qui tout d'un coup deviennent possibles. Et ce n'est pas juste de l'imagination, c'est de la réalité. Et combien peuvent rendre témoignage de cela? Et il dit, mais ne crains pas, ne te laisse pas dominer par tes pensées, parce qu'elles ne sont pas toutes justes. Tu ne vois pas tout, tu n'as pas toute l'information, tu ne sais pas quelles sont les options que j'ai. Il dit, ne te limite pas à ce que tu peux comprendre, et ce que tu peux saisir, et ce que tu sais, et ce que tu as expérimenté. Mais laisse agir la foi, qui ouvre et qui libère beaucoup de choses. Et la foi, c'est pas juste je crois, c'est la foi en qui, hein. C'est tout à l'heure on parlait de la petite qui avait été guérie et Jésus, de nos jours il y a des gens qui se prétendent guérisseurs. Hein, mais la question, c'est toujours, c'est par quel pouvoir est-ce qu'ils guérissent, hein, et certains, c'est le pouvoir de la suggestion. Parfois, il suffit de que la personne croit, hein, c'est les placebos, hein, c'est, il suffit de le convaincre dans sa tête, et puis ça y est, il sent mieux. Hein. Ça y est, pas, le médecin le sait, tout le monde le sait. Après, il y a aussi par le pouvoir du malin. Les malins, ils arrivent à faire des choses extraordinaires aussi. Hein. Et puis après, il y a le pouvoir divin. Et donc, avant de courir derrière un guérisseur, il vaut mieux savoir qui l'anime. Parce que ce n'est pas le guérisseur, c'est le pouvoir. Et d'où il vient et quel pouvoir. Parce que le pouvoir divin, il libère. Mais le pouvoir malin, il asservit. Hein, et puis le pouvoir de suggestion, ça dure pendant un temps. Hein, donc, et puis après, ça revient. Donc, vous savez, mais la foi, hein, cette confiance en Dieu, c'est une personne. Dieu est une personne qui est bon, qui est intelligent, qui a une volonté et qui peut qui est maître de la situation. Et c'est à lui que je me confie pour ce qui est du salut de mon âme et pour ce qui est de ma vie de tous les jours. Et c'est un peu dans un sens, on va continuer la semaine prochaine, mais c'est là où Jésus essaie d'amener Jaïrus. Et donc, bien sûr que c'est délibéré qu'il perd du temps, qu'il laisse passer le temps, mais c'est parce qu'il est en train de travailler à faire. Hein, vous savez, ça est, quand même, hein, pour aller du CP jusqu'en terminale, il prend quelques années, hein, pour apprendre des choses. Et dans la vie spirituelle aussi, vous voyez, il faut, chez nous, ça prend un peu de temps pour apprendre les choses. Et lui, il veut bien, il est patient avec nous. Et il veut bien, et parfois nous ne sommes pas patients avec lui, mais lui, il est patient avec nous, et il nous suit, il nous accompagne. Et là, il est en train de faire un travail à Jaïrus. Hein, et Jaïrus, là, donc, on a vu le premier temps. On a vu Jaïrus qui doit, c'est son orgueil, son amour, et il laisse vaincre l'amour. Et il vient auprès de Jésus, et puis Jésus teste sa foi, parce que lui, sa foi, elle va jusqu'à, tu peux guérir, mais c'est tout ce que tu peux faire. C'est une foi, mais limitée. Et Jésus veut étendre cette foi. Et Jésus, donc, le laisse écouler. Et combien de fois, hein, je peux en témoignage moi-même, hein, il y a eu des situations où je croyais en Dieu, j'avais confiance en Dieu, et il a laissé les choses jusqu'à que ça avait l'air d'être de pas passer. Pourtant, j'avais la confiance que c'était vraiment lui. Et une fois que je suis arrivé au bout de moi-même, ben ça s'est arrangé. Et il me l'a fait plus d'une fois. Maintenant, je prévois presque. Mais chaque fois, il fait aller encore un peu plus loin. C'est ça, hein, c'est un père qui élève ses enfants. Hein. On demande un peu plus. On va un peu plus loin, un peu plus loin. C'est de l'amour. C'est de l'intérêt. C'est ce que Dieu est. C'est pour ça que j'aime le Dieu de la Bible. Parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et c'est merveilleux. Et pour vraiment en jouir, il faut y vivre pleinement et se donner pleinement, le laisser faire. Et puis c'est extraordinaire ce qu'il fait. Il ne fait que des bonnes choses. Il construit, il ne démolit jamais. Il démolit l'œuvre de l'ennemi, mais il ne démolit pas son œuvre. Il nous construit, l'être humain. Et je remercie Dieu pour cela. Donc, dernière parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le Seigneur faire des choses que tu n'aurais jamais cru avant, surtout dans ta vie. Hein, et le plus grand des miracles, c'est pas de pouvoir mettre la tour Eiffel dans une bouteille. Et alors, mais le plus grand miracle, c'est de prendre un homme et de le transformer. Et il ressemble plus au premier. Et qui ressemble de plus en plus, il a les traits qui nous rappellent Jésus-Christ. Je me rappelle, une fois, j'ai été visiter une dame, et puis il y a sa petite fille qui est venue à la porte et qui a répondu à la porte, et puis elle m'a vu, Et elle savait qu'elle m'avait vu à l'église. Elle dit, maman, c'est Jésus. Bon. C'était pas tout à fait ça. Mais elle a associé. Et vous savez, il faut que la transformation dans notre vie soit telle que quand les gens regardent, ils disent, ouais, ouais, bon, lui, je sais, c'est un être humain comme moi. Mais bon, je vois quand même les traces de l'œuvre de Dieu. Et c'est ça que nous voulons. C'est que ouais, le champ, d'accord, mais lorsqu'on regarde un jardin, on se fait des idées sur le jardinier, n'est-ce pas? Vous venez pas voir le mien. Mais c'est, on regarde le jardin et on se fait une idée sur le jardinier. Et on peut deviner pas mal de choses sur lui. Écoutez, nous sommes un jardin du Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons que les gens voient et comment voulons-nous qu'ils conçoivent Dieu? Nous allons prier. Je vais donner quelques moments de silence et que chacun puisse déjà se dire Seigneur, oui, et ce qu'il a pu vous montrer, ce qui est resté, quelque chose qui a marqué, que vous puissiez lui en parler, et puis garder ses pensées avec vous et travailler avec lui. Si vous en a parlé, c'est parce qu'il veut aller plus loin avec.